Voilà, j'espère que vous êtes encouragés. Hein. Je ne sais pas si vous n'êtes pas encouragés, ce qu'il faut faire, parce qu'on a les montagnes, on a le soleil, on a des frères et sœurs, on a des personnes qui s'occupent des enfants, des bébés, et puis on a pu être nourris physiquement, et j'espère aussi spirituellement. Et donc on peut être reconnaissant. Vous savez que jusqu'à là, je ne peux qu'insister sur le fait comment s'encourager, et je vais continuer. Et cet après-midi, ça sera ma conclusion. Je vais donner toute une flopée d'idées pour encourager les autres. Hein. Ce sera ma conclusion. Je vais donner des idées pratiques et aussi l'occasion de prendre des décisions. Hein. C'est Billy Graham qui disait à la fin de la prédication, « Maintenant, vous allez prendre une décision. » Et si vous ne prenez pas une décision, rien ne va changer. Hein. Ça fait à peu près 6 heures. Vous avez entendu à peu près 6 heures sur ce thème. Et je vais vous demander à chacun de réfléchir, de prier, pour peut-être prendre 2 ou 3 décisions, pour vous encourager vous-même, pour encourager votre famille, et pour encourager donc l'Église. Et je vais être beaucoup plus précis donc cet après-midi dans ma conclusion. Et on va, je pense, se retrouver ici cet après-midi, oui. N'est-ce pas, pour la conclusion. Et vous savez que lorsqu'on est découragé, ça m'est arrivé aussi dans mon ministère, ça m'arrive, pas souvent, mais ça m'arrive. Mais de pouvoir le dire à quelqu'un, ça fait du bien, hein. Il faut du courage pour dire à quelqu'un, je suis découragé. Et vous savez, c'est contagieux lorsque je le dis à quelqu'un d'autre, ça m'est arrivé dans mon église, l'autre personne me dit, mais moi aussi, prions ensemble. Et les cœurs se rencontrent, c'est formidable ça. Hein? On trouve une communion. Arrêtons de nous écraser les uns les autres par nos victoires, mais soyons transparents, soyons honnêtes les uns avec les autres, disons, mais prie pour moi, parce que j'ai besoin d'être encouragé. Et je veux insister sur le fait que vous pouvez aujourd'hui, même pendant une minute, de manière spontanée, dire à quelqu'un que je peux prier avec toi. Moi, je l'ai fait avec plusieurs personnes, pas avec tout le monde. Et vous allez voir, ça va les encourager. Prenez l'initiative, hein. Vous allez les surprendre. Mais ce n'est pas grave. Hein. Et même si on ne prie pas, je vais leur poser la question, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que tu peux me donner un sujet? Et vous allez voir, ça va changer leur journée aussi. Vous allez être bénis. Alors, j'aimerais ce matin parler du découragement. Du découragement, comment se décourager, ce sera la première partie. Et puis, la deuxième partie, ce sera comment s'encourager. Et nous allons prendre un exemple de l'Ancien Testament. Et je vais vous donner donc des étapes vers le découragement. Je vais vous montrer un escalier. Il y en a plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, vers le découragement. Et puis on va remonter l'escalier pour être encouragé. On va prendre un premier texte dans 1 Rois, chapitre 19. On va se lever, comme ça vous ne dormez pas. Hein. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre. Donc 1 Rois, chapitre 19, on se lève, voilà. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on se levait pour lire la parole de Dieu, surtout dans le livre de Néhémie. On va lire un texte dans l'Ancien Testament et puis un deuxième texte dans le Nouveau Testament dans un deuxième temps. 1 Rois 19. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'il avait fait, Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoyait un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, verset 3. Voyons cela. Se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demandait la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. »
Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donnait cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Elle y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée les prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Verset 11, « L'Éternel dit, « Sors !» Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Je peux vous asseoir. Maintenant, un texte dans le Nouveau Testament. Dans l'Épître de Jacques. Dans Jacques, chapitre 5. C'est un texte étonnant concernant le même personnage. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 5, verset 17. Regardez bien, c'est vraiment étonnant. Élie est un homme de la même nature que nous. C'est encourageant, hein? Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Élie est un homme de la même nature que nous. C'est encourageant. Et nous avons déjà vu, je ne vais pas revenir là-dessus, des personnages de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui sont tombés dans le découragement. Et j'aimerais insister donc ce matin sur comment il a pu s'en sortir. C'est ça l'important. Et nous allons voir dans un premier temps les différentes étapes maintenant, les causes du découragement. On va revenir donc à notre texte dans 1 Roi, chapitre 19. Première remarque concernant ce texte. Cet homme, c'est un homme extraordinaire. Ce n'était pas n'importe qui. Hein? Parce qu'il a fait descendre donc, le feu du ciel par la prière. Hein? Et puis à un autre moment, il a fait descendre la pluie par la prière. Dieu l'a utilisé d'une manière incroyable. Et ce qui est vraiment étonnant, lorsqu'on regarde à travers l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les hommes et les femmes remarquables, et puis tout à coup, ils tombent dans les découragements. Vous savez que Spurgeon, Haddon Spurgeon, il avait 6000 personnes dans son église, mais pendant toute sa vie, il tombait dans les vagues de découragement comme ça. Donc, on peut dire que lorsqu'on rencontre les découragements, ça fait partie du jeu. Hein? Jésus est passé par là, on a déjà dit. Jésus, il compatit, Jésus, il comprend. Jésus était tenté en toutes choses sans péché, mais Jésus est passé par là et ça peut aussi nous encourager. Alors, je vais maintenant préciser les différentes étapes. Regardez bien. Première étape, c'est la crainte. Et pourtant, nous avons l'impression que Élie est un homme intrépide, que personne ne pourrait le troubler, même lorsqu'il est avec le prophète de Baal. Ce n'est pas les Suisses, entre parenthèses. Hein. On dit les prophètes de Baal, mais ce n'est pas des Suisses, hein, vous êtes d'accord. Hein. Même lorsqu'il y avait des prophètes qui étaient là tout seuls, il a pu faire, contre tous ces hommes, il a pu faire des miracles. C'est incroyable. Et ce qui est étonnant, que cet homme, il est saisi tout à fait par la crainte. Il est saisi par la crainte. Verset 3, Élie voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il a été saisi de peur et de crainte. En grec, ce mot était saisi par une espèce de terreur qui va le faire trembler intérieurement. Vous savez, la crainte, c'est quelque chose de terrible. C'est comme deux monstres qui ont deux têtes qui regardent dans les directions opposées. C'est un tiraillement. Hein? C'est ça la crainte. Ça peut nous troubler. Je ne sais pas si je vais arriver d'avoir des moments de crainte. Moi, j'ai eu un moment de crainte quand j'ai acheté une nouvelle voiture, un Golf. Et mon fils, il dit, papa, est-ce que je peux conduire ta voiture pour la première fois? Il venait de passer son permis, il dit, je ne sais pas. Et je ne vais jamais oublier, j'ai prié tout le long. Et malgré tout cela, on a traversé un champ avec ma nouvelle voiture. J'ai tremblé de peur, C'était vraiment horrible. Et vous avez peut-être eu des moments quand vraiment on est paralysé. Hein? Vous avez eu des expériences lorsqu'il faut faire quelque chose. Peut-être c'est avec votre ordinateur pour la première fois, je n'avais jamais fait, puis on touche quelque chose et puis tout explose. Hein? Et puis la deuxième fois, on a aussi peur, ce n'est pas vrai, vous connaissez ça ou ça ne marche pas. Hein? Et vous savez, la crainte, ça peut nous paralyser. Hein? Donc la crainte, c'est comme un horrible monstre à deux têtes qui regarde dans des directions opposées. Et c'est Montaigne qui a dit, il y a une chose dont j'ai peur. Une chose seule, c'est la peur. La peur et la crainte. Et vous savez que plus de 360 fois, j'ai compté dans une concordance, ça revient dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est Dieu et Jésus qui nous dit « Ne crains pas, parce que je suis avec toi. Même quand tu traverses les eaux, même quand tu traverses les difficultés, je serai avec toi. » Et cette phrase revient 350 fois, et j'aimerais vous encourager à recevoir cette parole dans votre cœur. Frères et sœurs, ne craignez pas, ne craignez pas, car je suis avec toi. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Heureusement que tu es là, hein, parce que les autres, peut-être ils dorment, hein. Parce que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur de mer et quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler la terre. C'est le psaume 46, versets 2 et 4. Dans notre vie de tous les jours, on peut avoir des moments de crainte. Peut-être c'est un téléphone, c'est peut-être des mauvaises nouvelles, peut-être c'est la maladie. Peu importe les circonstances, nous pouvons avoir la paix dans notre cœur de savoir que Jésus est avec nous par la puissance de son esprit. Et nous pouvons aussi nous appuyer sur cette parole de Dieu qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. » C'est 1 Pierre 5, verset 7. Et vous connaissez la suite. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Et vous savez, en grec, ce terme veut dire, c'est comme Michael Griffiths qui dit, c'est comme dans un commentaire, c'est comme une armée qui marche autour d'une ville pour la protéger 24 sur 24. Et Dieu gardera votre cœur. Il dit aussi, il gardera vos pensées. C'est pas formidable ça? Dieu, il gardera vos pensées. En Jésus-Christ. Écoutez ces promesses, ces paroles qui viennent de Dieu. Ne craignez pas, car je suis ton bouclier. C'est Genèse 15, verset 1. Ne crains pas, parce que je suis avec toi. Genèse 26, 28. Ne craignez pas les gens de ce pays, car je suis avec toi. Nombre 14, verset 9. Ne crains rien, car je suis le premier et le dernier. Apocalypse 1. Verset 17. Alors, frères et sœurs, non la crainte. Deuxième étape, la fuite. Regardez bien ce qu'il va faire. Il dit, verset 3, il dit, voyons cela, se leva son Allah pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. La crainte va déclencher quelque chose, hein? Peut déclencher quelque chose de négatif si nous ne faisons pas attention. Et il est très intéressant de noter où il va aller. Il va aller dans le désert, dans un lieu aride, un lieu de sécheresse, un lieu de solitude. Et vous savez, il y a le danger aussi pour nous de fuir l'Église. de fuir les chrétiens. Moi, je connais des gens qui disent, voilà, moi, je lis la Bible chez moi, je regarde Internet ou je regarde France 2, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, car Dieu nous a placés dans une église, dans une famille. Et j'avais mis, donc, dans mes listes d'encouragement, bien sûr, c'est l'action trinitaire, notre identité, la vérité, mais aussi, j'ai mis sur ma liste l'église, les frères et sœurs. Et parfois, je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'aller à la réunion des prières. Hein. C'est étonnant que je dise ça. Mais je vais aller quand même parce que je suis le pasteur. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont dire si le pasteur ne va pas hein. Mais je vais quand même. Alors, parfois, je dis à ma femme, tu ne veux pas aller, moi, je vais garder les enfants. Et puis, je vais regarder la télé. Elle dit, non, c'est mieux que toi, tu ailles. Mais je peux vous dire que chaque fois que je vais à la réunion des prières, je suis toujours béni. Je ne suis jamais déçu. Parce que de rencontrer les frères et sœurs, et parfois, je demande aux frères et sœurs de prier pour moi. Vous savez que parfois, on joue au cache-cache pour faire croire que nous, les pasteurs, nous, les membres de conseil, nous, on n'a aucun problème, on est plus fort que les autres. C'est exactement le contraire, on est parfois plus faible que les autres et nous avons besoin de la prière des autres. Et je veux vous encourager à être transparent, de dire aux autres, eh bien, prie pour moi. Parce que je suis découragé, parce que j'ai peur de ne pas fuir l'église, de ne pas fuir la réunion de prière. Et je vous encourage tous à prendre la décision d'aller à la réunion de prière. Et si vous y allez tous, je pense que votre pasteur va être vraiment surpris. Mais pour moi, ce sera la réponse à la prière. Je vous encourage de ne pas fuir les frères et sœurs, parce que c'est une source de bénédiction. Et vous savez, vous avez noté, là, il va passer par un lieu très intéressant. Il ne va pas aller directement dans le désert, mais il va aller à Beersheba. Et Beersheba, dans l'Ancien Testament, c'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu là où Dieu il a parlé à Abraham. C'est là où Dieu il a donné des promesses. Et les archéologues nous disent, je me suis renseigné, il y avait à Beersheba, donc des puits qui faisaient, tenez-vous bien, 12 mètres de circonférence. Hein, des énormes puits, c'était un lieu de ressourcement. Et ils étaient donc profonds de 15 ou 20 mètres de profondeur. Et il est passé à côté. Il ne s'est pas arrêté dans ce lieu de ressourcement. C'est dommage. Il passe à côté. Vous avez remarqué ce qu'il a fait. Non seulement il a passé à côté, alors il ne faut pas passer à côté de l'église. Parce que c'est un lieu de ressourcement. C'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu d'encouragement. Et même si votre église n'est pas parfaite, surtout si vous y allez, hein, lorsque vous y mettez les pieds, elle sera plus parfaite. Hein. Il faut y aller quand même. Hein. Ce sont les gens qui sont faits de la même pâte que nous, qui ont le même problème que nous. Et nous pouvons aussi être bénis. Donc, non à la fuite. Et malheureusement, Élie, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé dans un lieu aride. Troisièmement, il va faire quelque chose qui est terrible. Qui va contribuer grandement à son découragement. Vous avez remarqué dans les textes, il va aller donc à Beersheba, mais là, il va laisser son serviteur. C'est une petite phrase, hein? La séparation, verset 3. La fuite déclenche la séparation avec son serviteur, et ça va déclencher autre chose, plus grave, ça va déclencher la solitude. Hein. Et je peux vous dire que lorsqu'on reste seul, on ne voit pas clair. J'aimerais vous le dire, parce que parfois on se fait des idées tout seul, mais lorsqu'on parle avec les autres, on a un autre éclairage parfois sur des problèmes. Et cette séparation, c'est quelque chose de terrible. Donc, Hébreux 10, verset 25, « Veillons les uns sur les autres ». Pour nous exciter à l'encouragement et à l'amour, à des bonnes œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée. Vous avez entendu? N'abandonnons pas. C'est la réunion des prières ce soir, on y va. Sur l'étude biblique, on y va. Même si vous n'avez pas envie. Vous allez voir que Dieu, il va vous bénir, il va vous encourager. Et non seulement il va vous encourager, mais ils vont encourager les autres. Hein? Peut-être que vous allez pour la première fois, les autres vous dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est la conséquence de notre week-end sur l'encouragement, hein? Vous pouvez leur dire, hein? Même s'ils vous posent la question. Donc, la séparation, la solitude. Vous avez entendu ce qu'il dit? Cette prière n'est pas très, très orthodoxe, hein? Mais c'est quand même dans la Bible. Hein? Et je le dis encore, il y a une puissance libératrice de pouvoir tout dire à Dieu. On peut tout dire. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il demande même Dieu de reprendre sa vie. Hein. C'est pas biblique, ça. Hein. Mais il va le dire. Et j'aimerais donc vous encourager à trouver dans la prière cette puissance libératrice. Peut-être des choses ou des circonstances qui vous restent à travers la gorge, de pouvoir le dire à Dieu. Et ça va donc aussi vous libérer. Et ce que nous voyons, il va se comparer aux autres. Car il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, et aussi, ça c'est très dangereux, je l'ai dit hier, je l'ai dit encore aujourd'hui. Mais non seulement ça, il va radoter, on dit ça, il radote. Paraît-il, c'est lorsqu'on est vieux, on radote. Mes enfants me disent parfois, mais papa, tu as dit ça 50 fois, hein, et tu commences à radoter, hein, je radote. Et vous avez remarqué ce qu'il dit, il va prier une fois, donc regardez bien dans le verset 10, et il dit une prière. Et puis dans le verset 14, hein, quelques instants après, il va dire exactement la prière. Si Dieu était sourd, si Dieu était bête, mais il va quand même le dire. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée les prophètes, etc. Et moi, je suis resté seul. Ils cherchent à monter la vie. Et puis, il recommence un peu... plus tard, dans le verset 14, exactement la même prière. Et vous savez que parfois, lorsqu'on est dans la solitude, on ne voit pas clair. Nous avons besoin des autres, nous avons besoin de dialogue pour avoir une autre perspective des choses et aussi des problèmes. Maintenant, la partie positive. Et puis, bien sûr, il est découragé. Il est au bout du rouleau. Et ce qui est formidable, c'est, il n'est pas dit dans la Bible, ce n'était pas une belle prière, mais Dieu, il va écouter cette prière. Hein. Et par la suite, il va pouvoir donc remonter. Vous avez remarqué, il y a une flèche ici. Il descend, regarde la tête qu'il fait. Hein. On n'est pas responsable pour la tête qu'on a, mais on est responsable pour la tête que l'on fait, je l'ai déjà dit hier. Hein. Mais, et c'est plus important, et ce sera ma conclusion, sont... les étapes vers l'encouragement. La première étape, vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une bonne sieste. Et là, il y a une application importante. Dieu, il va s'occuper de ses besoins physiques avant de s'occuper de ses besoins spirituels. Ça, c'est important, ça. Il y a certains chrétiens, ils sont épuisés parce que sur le plan physique, ils ont besoin de repos. Dieu, il n'arrive pas à leur parler parce qu'ils sont trop fatigués, mais physiquement, intellectuellement, psychologiquement. Mais ici, ce que nous voyons, c'est que Élie, il va se coucher et il va s'endormir. Et deuxièmement, ce que nous voyons, il va se laisser toucher par Dieu. Et ici, c'est un point clé vers l'encouragement. Ce n'est pas ce que disent les autres, ce n'est pas ce que pensent les autres, ce n'est pas ses projets. Mais il va se laisser toucher par Dieu lui-même. Dieu va envoyer un ange. Et moi, j'ai prié pour ce week-end, j'ai prié pour que Dieu vous touche par une parole, par un verset, par une idée, pour que vous puissiez retrouver la flamme de l'encouragement. Moi, je ne peux rien faire, mais c'est Dieu qui peut le faire. Et cet après-midi, je vous demande donc de prier pour que Dieu il vous dise une seule chose. Il va se laisser toucher par Dieu. Dieu, il envoie un ange. Et parfois, Dieu, il envoie d'autres personnes. Il faut nous encourager. Ça, c'est fort. Dieu, il peut parler tout seul, mais parfois, il envoie un frère et une soeur pour nous encourager. Donc, il va faire une sieste. Et non seulement il va faire une sieste, il va se laisser toucher par Dieu. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il se réveille? Il y a tout un menu qui est préparé par Dieu. Hein. Ce n'est pas un hamburger de McDo. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, verset 6, si vous regardez, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et vous savez qu'il avait encore un très long chemin à faire. Mais Dieu, il va lui donner ce dont il a besoin. Et il n'a pas dit, je n'ai pas besoin de ça, mais il va le prendre comme un don et aussi comme un cadeau de Dieu. Donc, il va se laisser nourrir par Dieu. Et je l'ai dit hier, je l'ai dit encore, c'est bien d'écouter les prédicateurs, c'est bien de lire des livres, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est que Dieu lui-même nous touche par sa parole. Que ce soit l'étincelle de la parole de Dieu qui donne cette flamme de l'encouragement. Et je vous encourage chaque jour d'ouvrir la parole de Dieu et de lire cette parole de Dieu, de plonger vos regards dans cette parole, de se laisser nourrir par Dieu, d'établir un plan personnel pour l'étude de la parole, pour étudier la personne de Dieu, les attributs de Dieu. Et peut-être de le partager avec quelqu'un, dire voilà, moi j'ai décidé de faire ça cette année, tout seul, tous les jours, ou une fois par semaine, ou une fois par mois, de mettre du temps à part, ou de m'inscrire par exemple. Vous avez maintenant sur Internet les différentes écoles bibliques ou facultés de théologie qui proposent donc des moyens pour approfondir nos connaissances. C'est très important de pouvoir se nourrir, pas par les autres, mais de se nourrir par même. Et Dieu, il a tout pour vous, pour chacun d'entre nous. Il se laisse donc nourrir par Dieu. Et non seulement ça, il va reconnaître la main de Dieu. Il va accepter la provision de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va faire une deuxième sieste. C'est permis. C'est formidable. Hein? Il va faire une deuxième sieste. Il a reconnu la bonté de Dieu, la provision de Dieu. Et puis, il entre dans le repos. Il se repose en Dieu. Il va reprendre son chemin. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il a fait? Il devait marcher pendant 40 jours. Ça fait à peu près 600 kilomètres. Je ne sais pas combien de kilomètres vous avez fait pour aller sur la montagne ce matin. Hein. Vous êtes tous revenus un peu fatigués, mais ce n'est pas grave. Hein. Vous pouvez vous reposer et faire une bonne sieste cet après-midi. Hein. Et vous avez remarqué qu'il a marché pendant 40 jours avec cette nourriture. C'est comme un miracle. Et lorsque, vous savez, lorsque Dieu nous donne une parole, lorsque Dieu nous donne une promesse, c'est une parole qui me donne la force et l'encouragement jusqu'à la fin de notre vie. Et pas seulement pour nous-mêmes, mais pour encourager les autres. On va le voir cet après-midi. Il se laisse nourrir par Dieu. Et puis non seulement ça, il va se reposer en Dieu. Ça c'est quel repos céleste, Seigneur, d'être à toi. Vous connaissez ce cantique, c'est magnifique. Hein? Et je veux vous encourager vraiment de recevoir la paix de Dieu dans votre cœur, parce que Dieu, il nous donne ses promesses, il nous donne sa présence, il nous donne sa puissance, il nous donne son Esprit Saint à l'intérieur de nous. Et je suis sûr qu'Élie, il avait des questions, il n'avait pas toutes les réponses, mais il va se recoucher, hein? Il va se reposer en Dieu, il faut le faire quand même. Hein? Et puis, il avait des questions, il avait des doutes, mais il dit dans ce cantique, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec toi, tout est bien, ma paix est infinie. Il est important pour chacun d'entre nous de retrouver la paix en Dieu, de retrouver le repos en Dieu et puis de faire une bonne sieste. Je vous encourage de le faire cet après-midi si vous avez le temps. Et vous savez que la suite de l'histoire, c'est qu'il va retrouver les dialogues avec Dieu. Hein? Il va retrouver les dialogues avec Dieu. Ce n'est pas très orthodoxe, mais ce n'est pas grave. Hein? Même si vous priez, même si vous êtes un chrétien, vous n'avez jamais prié, bien prie pour la première fois. Hein? C'est formidable d'entendre de nouveaux chrétiens qui prient. Il va retrouver le dialogue avec Dieu. Et ce que Dieu lui dit est beaucoup plus important de ce que lui, il veut dire à Dieu. Parce que Dieu, il va parler. Hein? C'est ça la vraie prière. Ce n'est pas ce que moi, je dis à Dieu, mais c'est ce que Dieu me dit. Donc, laissez le temps pour que Dieu, il peut vous parler. Et Dieu, il va parler. Il y a eu un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu le vent violent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Mais comment est-ce que Dieu, il a parlé? Et après le tremblement de terre, verset 12, il y a eu le feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure tout léger. Vous avez entendu?
Vous avez entendu ce que je dis?
Et je veux vous encourager à recevoir, d'entendre cette petite voix. C'est pas ce grand bruit, hein. C'est pas ce qui est spectaculaire, mais Dieu parle cette petite voix. Et je crois que Dieu est en train de parler pendant ce week-end. Peut-être des choses qu'il faut régler, mais peut-être il y a quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, que vous connaissez. Et c'est seulement vous qui pouvez le faire. Et Dieu est en train de vous parler. Eh bien, faites une démarche pratique pour l'encourager. Donc, il va retrouver le dialogue avec Dieu. Et non seulement ça, il va se mettre en route. Ça, c'est formidable. Et lorsque Dieu nous encourage, ce n'est pas pour nous-mêmes, hein, ce n'est pas seulement pour nous booster, mais c'est pour booster les autres, pour encourager les autres. Et ô combien les chrétiens, ils ont besoin d'être encouragés. Ne comptez pas seulement sur le responsable de l'Église pour encourager. Chacun, vous avez un rôle à jouer. Je veux vous encourager de vous occuper d'une personne dans votre église, de prier peut-être pour une personne pendant une semaine, de tisser des liens d'affection, de s'intéresser à cette personne. Et dans notre église, nous avons un système d'anges gardiens. Hein. On encourage chaque personne de l'église de s'intéresser, peut-être surtout à des jeunes et des nouveaux chrétiens, et sans que la personne le sache, de prier pour lui, de faire des petits cadeaux, de faire des petits gestes. Et cette personne ne sait pas d'où ça vient. C'est formidable ça. Hein? Et Françoise s'est occupée d'une personne pendant 2 ans. Hein? Pour son anniversaire, on lui a petit cadeau. Et cette personne ne sait pas que ça vient de ma femme. C'est formidable ça. C'est encourageant ça. Hein? Voilà, je vous donne des idées hein, à mettre en route. Hein? Si vous voulez recevoir un cadeau, c'est grâce à moi. Hein? Vous avez compris. Il va reprendre son chemin. Il va se mettre en route. Ça, c'est formidable. C'est Dieu qui lui dit, verset 15, et l'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin. Va retrouver tes frères. Et il va retrouver ses frères. C'est magnifique ce texte. Parce qu'il dit l'essentiel de tout ce que moi je voulais communiquer. Il va retrouver ses frères. Et ses frères, certains d'entre eux vont être des rois, d'autres des prophètes. Et c'est eux qui vont nourrir les autres. Verset 21. Vous voyez, ça fait boule de neige. C'est formidable. Et vous connaissez la fin de l'histoire, c'est Dieu, il va reprendre Élie, et c'est Élisée qui va reprendre la suite. Hein. Il va passer les relais. Et là, j'aimerais aussi faire une application. Pour encourager les autres, je veux vous encourager à laisser votre place à quelqu'un d'autre qui est plus capable, ou aussi capable, au moins capable que vous. C'est encourageant, ça. Hein. C'est pas facile. Hein. Vous savez, j'étais dans la même église pendant 30 ans. Hein. J'ai fondé cette église, j'ai construit cette église, je fais le carrelage. J'aimais beaucoup le bâtiment, j'aimais moins les gens, mais il ne faut pas le dire. Hein. C'était un peu mon défaut. Et moi, je ne voulais pas quitter l'église, j'aimais ce bâtiment. Et un jour, Françoise me dit, dans la prière, je pense que Dieu il nous demande de partir. Je dis, mais surtout pas! Surtout pas! Mais j'ai dû écouter ma femme, hein. Quelqu'un dit, écoutez Dieu, écoutez sa femme, c'est la même chose. Mais mesdames, je n'ai pas un verset biblique pour ça. Je regrette. Hein. Et vous savez, c'était notre salut. On a quitté cette église et quelqu'un d'autre, un autre pasteur, plus jeune, plus doué que moi. Et quand je suis parti, l'église a commencé à grandir. Ce n'est pas formidable, ça? C'est encourageant. Hein. Ça dépend pour qui. Et parfois, nous pensons que nous sommes indispensables, que Dieu, il ne va pas agir si on n'est pas là. Et je me souviens, le premier dimanche, quand je suis parti, je dis, je ne sais pas si les gens vont venir à l'église. Et j'ai téléphoné, comment ça va? Il dit, mais l'église était bondée. Et je dis, ah bon? Je dis, comment ça se fait, ça? Et bien, l'église avait besoin aussi d'un changement. Hein. Et si vous avez des responsabilités dans l'église, peut-être vous êtes dans le conseil, peut-être votre temps est terminé, peut-être vous laissez à des plus jeunes. Hein. Enfin, je ne dis pas ça à votre pasteur, si vous allez me dire c'est ma faute. Hein. Mais j'aimerais faire une application, si vous pensez que vous êtes indispensable, et c'est un grand danger, et vous savez, beaucoup d'églises ne grandissent pas, parce que des personnes, ils tiennent leur place. Hein. Et ce qui m'a fait plaisir de voir des personnes, l'équipe de musique qui tourne, ce n'est pas toujours la même personne. Ça, c'est un signe de dynamique qui nous encourage. Et si vous pensez que vous êtes indispensable, je vous donne un petit exercice à faire. Vous prenez un verre d'eau, vous le remplissez jusqu'au bord, vous mettez votre doigt dedans, d'accord? Vous retirez votre doigt, et s'il y a un trou dans l'eau, ça veut dire que vous êtes indispensable. Et vous savez, c'est encourageant quand les gens ils laissent la place. Et vous allez voir que Dieu, il va susciter des personnes qui sont plus capables que vous. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Personne n'est indispensable. Et c'est encourageant lorsqu'on laisse la place pour les autres. Je termine. Il va se mettre en route. Il va retrouver du travail. Et puis, il va retrouver les frères et sœurs. Ça va être formidable. Parce que ils vont, quelqu'un d'autre, une autre équipe, va reprendre le ministère. Et ça va continuer à travers l'Ancien Testament jusqu'à Jésus. Et ça vient jusqu'à nous. Et c'est à nous aussi de trouver notre encouragement en Dieu. Donc, je termine. Non à la crainte. Oui, à la confiance. Non à la fuite. Oui, à la confrontation, à la réalité. Non à la séparation. Oui, à la communion. Non à la solitude. Oui, à la communauté. Non à la comparaison. Oui, à la complémentarité. Quel encouragement de savoir que Dieu, il équipe son Église avec des dons. Donc, à nous de retrouver la force, la nourriture spirituelle dont nous avons besoin, la joie et aussi une paix profonde dans notre cœur, pour que nous puissions se laisser toucher par Dieu, se laisser nourrir par Dieu, et puis aussi retrouver la joie dans l'Église. Prions. Seigneur, je veux te remercier pour ton Esprit Saint qui distribue des dons. Je veux te remercier pour des personnes que ton Esprit équipe. Merci pour cette Église. Merci pour cette communion. Merci pour cette communication qu'on a pu avoir pendant ce week-end. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous touches avec une parole. Que tu nous donnes aussi, Seigneur, de prendre au sérieux cette parole, cette petite voix, de l'entendre, de le mettre en pratique. Donne-nous, Seigneur, de le faire pour ta gloire. Amen.